Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis.
Rediffusion du 18 septembre 2016.
Chers amis, deuxième émission aujourd'hui consacrée à une période très importante de l'histoire de l'Église de Russie, celle des tsars, et cela à l'occasion de la parution d'un livre très important, livre écrit par Pierre Gonod, « Histoire de la Russie d'Ivan le Terrible à Nicolas II, 1547-1917 ». Livre paru chez Talendier. Pierre Gonod, donc professeur à l'Université Paris-Sorbonne et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, est avec nous aujourd'hui pour parler de cette deuxième période que vous avez intitulée « L'Église russe au service de l'État » ou la période synodale. On va donc aller de 1720 jusqu'à 1917, c'est-à-dire à l'abdication du dernier tsar. Hein. La période des tsars sera terminée. On est déjà à une période, on a vu, où il n'y a plus de patriarches. Depuis 20 ans maintenant, il n'y a plus de patriarches.
Oui, alors donc il va falloir se décider. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, Pierre Legrand avait laissé les choses un peu en suspens. Celui qu'il avait mis sur le poste, le vicaire, espérait bien un jour, Étienne Yavorski, devenir patriarche. Et là, il va en être pour ses frais. En 1720, les choses s'accélèrent. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est la triste affaire du tsarévitch Alexis, le fils de Pierre le Grand, que Pierre le Grand a accusé de haute trahison, auquel il a fait un procès. Et durant ce procès, le tsarévitch est mort sous la torture. Donc, il y a tout un aspect de désacralisation et d'incertitude aussi sur l'avenir de la monarchie qui pèse. Et on s'est aperçu aussi que parmi ceux qui étaient compromis avec Alexis, il y avait beaucoup de membres du clergé. Et d'autre part, en 1720, on voit qu'on arrive à la fin de la guerre contre la Suède. La Russie a gagné, la Russie a remporté d'importantes victoires qu'elle va célébrer avec éclat en 1721. Et donc, c'est le moment d'aboutir dans les réformes dont certaines étaient laissées un petit peu improvisées. Alors Pierre le Grand va faire un règlement ecclésiastique. Déjà le terme de règlement est assez évocateur, puisqu'il y avait un règlement militaire, un règlement de la marine, et bien il y aura un règlement ecclésiastique qui précise les obligations essentiellement du clergé vis-à-vis du souverain et de l'État, et qui indique bien les priorités. Donc les évêques devront prêter serment de fidélité au souverain, et d'autre part l'Église va être un petit peu adossé à l'État, et à partir de 1721, l'organe qui va diriger l'Église s'appellera le Saint-Synode. Alors certes, il a un nom tout à fait ecclésiastique, mais il est en parallèle avec le Sénat, qui est l'organe qui assure la continuité de l'État aux côtés du souverain. Et en 1722, ça sera encore plus clair, puisque à la tête du Saint-Synode, on va placer un haut procureur, Oberprokuror, dans la terminologie de l'époque, très marquée par évidemment les langues germaniques. Et ce Oberprokuror est un laïc nommé par le tsar et qui est l'œil du tsar dans l'Église.
Alors une question, parce que cela est très important évidemment. Nous rentrons ici dans une manière d'organiser l'Église qui n'est pas propre à l'Église orthodoxe, hein, du tout. Non. Alors, d'où vient cette inspiration ? Enfin, on voit d'où ça vient, comme on sait aussi que Pierre le Grand a eu toujours l'œil vers l'Occident. Hein,
Oui, alors Pierre le Grand avait fait une grande visite à l'Ouest en 1697-98, et puis il est revenu aussi dans les années 1717, il est passé par Paris, entre autres, mais il s'est beaucoup intéressé à l'organisation des églises protestantes. Et au fond, l'organisation d'un synode épiscopal, à la manière protestante, ça lui plaît assez, ça garde la structure classique de l'Église, mais sous le principe de la collégialité, sans qu'il y ait un chef suprême. Et d'autre part, il ajoute quand même le contrôle du procureur qui répond directement auprès de lui. Donc c'est ce qu'appelleront certains théologiens russes une pseudomorphose protestante, c'est-à-dire que l'Église orthodoxe est d'un seul coup dénaturée, en tout cas à leurs yeux, et asservie. Parce que désormais, effectivement, elle a beaucoup moins, encore moins de marge de manœuvre. Alors c'est le résultat d'un premier stade. En même temps, on rédige un catéchisme officiel dans lequel il est dit que le secret de la confession ne doit pas être respecté dans les cas concernant la sécurité de l'État et la sécurité du souverain. Donc ça va très loin quand même.
Comment cela fonctionne-t-il dans les faits, est-ce que l'État, maintenant, a un regard direct sur toutes les affaires de l'Église, ou on laisse faire quand même, simplement, c'est une sécurité, si je puis dire, en cas de problème majeur?
On peut dire que le Saint-Synode devient un des appareils de l'État. Il y a des collèges qui dirigent les différents domaines, comme les ministères par la suite, et donc le Saint-Synode serait une sorte de ministère de l'Église orthodoxe russe. Et d'autre part, Pierre le Grand, parmi les points de règlement, a précisé une chose qui lui tient à cœur, qu'il limite les vocations monastiques, en particulier chez les hommes. Il fixe pour entrer en religion un âge assez élevé, 30 ans. Et au fond, pour lui, les hommes doivent devenir des soldats et pas des moines. Ces moines, c'est un petit peu quelque chose de superflu. Et ça va rester pendant le XVIIIe siècle encore. En 1736, l'impératrice Anne ordonne l'enrôlement de 7000 clercs superflus. Superflu, ça veut dire, on n'en a pas besoin dans l'Église, envoyons-les à l'armée. Donc il y a une ingérence très forte dans les affaires de l'Église.
Alors, on va continuer dans le XVIIIe siècle. On voit d'ailleurs, vous avez une chronologie assez détaillée à la fin de votre livre qui est très très utile pour aborder cet ouvrage, qui est très agréable à lire aussi, il faut dire. Et on voit que c'est au milieu du XVIIIe siècle seulement que de grands dirigeants souverains européens reconnaissent au tsar le titre d'empereur.
Oui, alors c'est à l'époque des tsarines, mais peu importe, effectivement, c'est Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui va obtenir la reconnaissance de ce titre impérial. Alors Pierre le Grand avait refondé l'Empire russe en 1721, s'était proclamé impérator et avait effectivement voulu obtenir cette reconnaissance internationale qui lui avait été chichement mesurée, en fait. Officiellement, les chancelleries européennes ne reconnaissaient pas ce titre. Là, en 1700, vers les années 1740, Élisabeth, grâce à une politique militaire très active et à la force militaire russe, obtient la reconnaissance des plusieurs grandes puissances européennes. Et à partir de là, effectivement, les tsars pourront jouer vraiment, ou les tsarines, dans la cour des souverains européens. Et ça se confirme avec Catherine II et avec ses successeurs.
Et on voit donc qu'en 1745, Louis XV reconnaît le titre impérial russe. Bon, on va en arriver maintenant à Catherine II, parce que c'est une période importante aussi, une personnalité très forte. C'est pas une Russe, hein.
Non, c'est une Allemande, mais convertie à l'orthodoxie. Alors là, désormais, depuis Pierre le Grand, on a pris l'habitude de marier les hommes ou les femmes de la dynastie avec des souverains, des princes ou des princesses étrangers, de préférence protestants, parce que les catholiques, on s'en méfie quand même beaucoup. Et évidemment, quand ce sont des filles qui viennent à la cour de Russie, on les convertit à l'orthodoxie, on leur change leur prénom. D'ailleurs, Sophie, qui était le prénom de Catherine, devient Ekaterina, Catherine, et sera impératrice, ce qui n'était pas prévu au départ, puisqu'elle est devenue impératrice par une révolution de palais. Alors, elle est devenue impératrice en prétendant qu'elle allait défendre l'orthodoxie contre son mari, lui aussi allemand d'ailleurs, ou à moitié allemand, Pierre III, qui avait entamé la sécularisation des biens d'église, la confiscation des biens d'église. Donc au départ, elle se pose en protectrice et en fait, elle va réaliser elle-même cette sécularisation qui est dans l'air du temps et qui lui permet de mettre la main sur des revenus et des terres importants.
Et donc, est-ce que la situation à la fin du règne de Catherine se présente pour l'Église maintenant complètement différente?
Ah oui, l'Église est encore plus, on va dire, bureaucratisée, puisque on a fait ce qui s'est fait par la suite, en fait, à l'Ouest, avec Joseph II en Autriche, avec la commission des réguliers en France. Et on a réduit le nombre des monastères en disant il y a tout un tas de monastères qui sont pas viables, où il y a trop ou trop peu de frères et de sœurs. On va regrouper tout ça. Donc on passe de 572 monastères d'hommes à 161 et de 219 couvents de femmes à 167. Donc on réduit nettement. Et les terres leur sont enlevées, tout simplement, ainsi que les serfs. Donc, à partir de ce moment-là, les seuls qui possèdent des serfs, ce sont les nobles. Et donc, il y a effectivement une monarchie qui s'appuie ouvertement sur la noblesse, qui a rabaissé l'Église et qui entre donc petit à petit dans le XIXe siècle sur ce pied-là.
Alors, le successeur de Catherine, un petit détail, mais qui m'a beaucoup intéressé, c'est Paul Ier, je crois, qui va communier au sanctuaire avec les prêtres, voilà. Ce qui rappelle le typicon byzantin.
Voilà, c'est-à-dire qu'au moment de son couronnement, il est admis dans le sanctuaire, derrière les portes royales, il communie avec le clergé, Et il a même l'idée que, en fait, ça fait de lui un évêque et qu'il pourrait célébrer la messe. Alors les évêques sont très ennuyés parce que ça commence un peu à les inquiéter. Et ils vont lui opposer un argument simplement matrimonial en disant « Vous avez été marié deux fois, enfin vous en êtes à votre deuxième mariage, or l'Église n'admet qu'un seul mariage pour l'évêque, c'est-à-dire il se marie avec son Église, donc vous ne pouvez pas concélébrer ou célébrer la messe » et il va accepter cette remarque.
Très bien. Alors, on va, avant de parler du 19e siècle, on va entendre une composition, une prière composée au 19e siècle par un grand compositeur, Nikolaï Rimsky-Korsakov. Ô Dieu, nous te prions. C'est le chœur de chambre Legge Artis sous la direction de Boris Abalian. Un moment de prière, donc, une composition de Nikolaï Rimsky-Korsakov. Nous te prions, ô Seigneur, par le chœur de chambre Legge Artis sous la direction de Boris Abalian. Nous revenons à notre conversation avec Pierre Gonod sur les tsars et l'Église. Deuxième partie, l'Église russe au service de l'État ou la période synodale 1720-1917. À l'occasion de la parution de ce livre, Histoire de la Russie devant le terrible Nicolas II. Nous sommes maintenant au 19e siècle, la dernière, je dirais, période des tsars. Et quel est le caractère, l'identité que les tsars du 19e siècle, c'est les Romanov, hein, depuis longtemps maintenant, donnent à leur État et quel est le rapport avec l'identité, je dirais, orthodoxe?
Alors c'est le tournant, on peut dire, c'est le règne de Nicolas Ier, donc entre 1825 et 1855. Après les guerres napoléoniennes, après des épreuves où, là encore, le sentiment religieux a énormément aidé les Russes à combattre. Les Russes sont toujours une armée militante qui va au combat avec ses icônes. Et donc, sous Nicolas Ier, c'est aussi le moment où l'idéologie slavophile commence à se poser, à se développer chez certains intellectuels. Et en fait, les cercles officiels, en particulier le ministre de l'Éducation, Ouvarov, vont reprendre une partie de cette idéologie slavophile et mettre en avant le caractère et national et orthodoxe de la monarchie. Alors, c'est la fameuse formule orthodoxie, autocratie, caractère national, qui va devenir une sorte de slogan de la monarchie russe pour dire « Nous, on est à part, on n'est pas comme l'Occident, on n'est pas déchristianisé, on n'est pas rationaliste, on n'est pas individualiste. » Et donc, on forme ce tout indissociable qui est orthodoxe d'abord, autocrate aussi, bon, la monarchie, et national, le caractère national. Alors, ce qu'on remarque, c'est que l'Église retrouve une place un peu plus importante dans la vie des élites. Et on va voir aussi se développer ce mouvement des starets à partir des années 1840 également, donc qui deviennent ces directeurs de conscience. Ça avait toujours existé, mais là, ça revient un peu à la mode. Et d'autre part, ça va être signalé, développé, connu, en particulier avec le roman de Dostoïevski plus tard, Les frères Karamazov, mais jusqu'en France, où le mot starets va entrer dans le dictionnaire grâce à Dostoïevski. Donc on est sensible en Russie même à ce renouveau religieux, et à l'Ouest, on est sensible aussi à cette religiosité russe qui s'incarne donc dans ces figures un peu mystérieuses, un peu vénérables, du starets en particulier. Et ça marque, disons, c'est la note du 19e siècle russe à partir des années 1830. Alors on parle aussi, une chose aussi qu'il faut noter, c'est de la Sainte Russie. Alors un terme qui existait déjà depuis un certain temps, qui avait été forgé à la fin du XVIe siècle, mais qui là devient aussi un mot d'ordre. Alors chacun a un peu sa vision de la Sainte Russie. Pour Dostoïevski, c'est ce peuple russe qui aspire à la sainteté, qui n'est pas forcément saint en soi, chacun fait ce qu'il peut, mais qui prend au pied de la lettre l'évangile et qui cherche à atteindre cette pureté. Et pour l'idéologie officielle, eh bien c'est plutôt nous sommes le peuple comme le peuple d'Israël, et ça permet aussi de projeter la diplomatie russe vers Constantinople, vers la Terre Sainte, avec des ambitions qui s'affirment.
Une question concernant la hiérarchie de l'Église. Il n'y a plus de patriarche depuis un moment maintenant. Qui a le vrai pouvoir ou personne? Est-ce que c'est le métropolite de Moscou? Toujours, c'est le métropolite de Saint-Pétersbourg, puisque la capitale est maintenant transférée là-bas.
Mais il y a un certain nombre de métropolites qui auront une influence importante, en particulier le métropolite Philarète, qui lui est métropolite de Moscou, Philarète Drozdov. Et puis, il y a quand même, c'est toujours le haut procureur du Saint-Synode. Alors certains, au départ, sont des gens assez libéraux, assez éclairés, en particulier à l'époque d'Alexandre Ier, encore sous Nicolas Ier. Et puis, on va voir apparaître Pobiedonossev, le haut procureur du Saint-Synode qui va marquer l'époque d'Alexandre III et de Nicolas II, et qui est un véritable directeur de conscience de ces deux souverains, et qui est très réactionnaire, qui aura une influence forte, en particulier justement pour éviter tout relâchement dans les mesures assez discriminatoires contre les vieux croyants. Parce qu'il craint fort que si on relâche un petit peu, eh bien l'Église officielle va perdre son emprise et peut-être une partie de ses fidèles. Donc c'est ce fonctionnaire, ce haut fonctionnaire, est quand même un personnage très important dans la monarchie à la fin du 19e et jusqu'en 1905, où il finira sa carrière suite à la révolution de 1905.
Et parmi les ecclésiastiques, il n'y a pas un personnage qui, institutionnellement, pas la personnalité de celui qui occupe tel ou tel siège, aurait un pouvoir plus important que d'autres.
Certainement, Philarète Drozdov est le plus important, et lui, il a profité du petit créneau de libéralisme sous Alexandre II. C'est en particulier lui qui a rédigé le manifeste qui annonce aux paysans leur émancipation au moment de l'abolition du servage en 1861. Donc, c'est plutôt lui un libéral par rapport à d'autres qui sont assez conservateurs.
Alors, on s'approche de la fin, et donc il faut terminer avec le dernier tsar et puis cette période révolutionnaire qui est assez longue quand même.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dès 1905, on sent aussi dans l'Église une volonté de renouveau et la volonté de revenir au patriarcat. Ça, c'est très important. On sent qu'il y a une humiliation qui a couvé de cette abolition du patriarcat, de cet asservissement de l'Église. C'est seulement en 1917, après l'abdication de Nicolas II, que sera convoqué un grand concile de l'Église russe, concile local, très démocratique dans la mesure où il y a des représentants laïcs aussi, et la première décision, la seule pratiquement qu'il pourra prendre, c'est de rétablir le patriarcat. Donc s'il y a un patriarcat russe, c'est parce qu'il a été rétabli en 1917. Ensuite, ce concile a été très ambitieux, il voulait réfléchir sur beaucoup de questions, la liturgie et la discipline. En particulier, il a même été question de passer de la langue slavone, la langue traditionnelle, au russe dans la liturgie, ce qui n'est pas encore le cas. Mais tout ça a été interrompu parce que, à partir de la révolution d'octobre, évidemment, les bolcheviks ont considéré que ce concile était un petit peu gênant pour eux. Alors, ils l'ont laissé poursuivre ses travaux jusqu'à l'été 18, et puis il a été renvoyé. Malgré tout, le patriarcat a été rétabli, et c'est peut-être ce qui a permis, une des choses qui a permis à l'Église orthodoxe russe de survivre à travers toutes les épreuves du régime soviétique, en particulier des premières années du régime soviétique qui ont été terribles pour toutes les religions, mais en particulier pour la religion orthodoxe russe, dans la mesure où elle était majoritaire.
Et aussi, en retrouvant le fonctionnement qui est propre à l'Église orthodoxe, avec quelqu'un à sa tête, avec le patriarche, ça c'est très important. Et une autre chose, en 1905 aussi, on voit qu'il y a un décret qui concerne le droit de choisir sa religion.
Voilà, alors jusqu'à présent, la tolérance, selon Pierre le Grand et ses successeurs, donc à partir des années 1716 et autres, c'est chacun garde sa religion de naissance. Et donc, s'il y a des sujets protestants, puisqu'il y en a dans les pays baltes, s'il y a quelques sujets catholiques, s'il y a des juifs, bon, ils restent ce qu'ils sont. Mais on peut toujours se convertir à l'orthodoxie, ça c'est possible. Alors, à partir de 1905, c'est tout à fait différent. Dès l'âge de 14 ans, et c'est quand même très tôt, vous pouvez choisir vous-même librement votre religion. Et là, évidemment, entre 1905 et 1920, on va dire, où les campagnes anti-religieuses se déchaînent, effectivement, il y a une fenêtre de liberté de conscience, d'enseignement religieux, etc., que la Russie n'avait pas connue et qu'elle ne connaîtra plus pratiquement jusque dans les années 80 du XXe siècle, où là, avec la perestroïka, on revient petit à petit à un régime de liberté religieuse.
Est-ce qu'on peut dire, pour ce qui a suivi et qui ne fait plus partie de votre livre, évidemment, pour la longue période soviétique, que l'Église, grâce aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir trouvé le fonctionnement autour d'un patriarche, a pu garder sa force intérieure, si je puis dire, à moins d'avoir le reste, pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de ce régime quand même.
C'est-à-dire qu'il y a eu aussi quand même les circonstances de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que cette Église était presque anéantie en 1941, au moment de l'invasion nazie, à part quelques clandestins, évidemment. Et à ce moment-là, évidemment, on a eu besoin de toutes les forces du pays pour faire face aux Allemands. Et en 1943, finalement, Staline a eu une rencontre nocturne avec quelques-uns des évêques russes encore vivants et leur a dit qu'il allait autoriser sous contrôle, évidemment, un renouveau religieux qui s'est fait à ce moment-là, qui a été remis en question sous Khrouchtchev parce que Khrouchtchev a voulu relancer la campagne athéiste. Mais disons que ça a été le deuxième miracle qui a sauvé l'Église orthodoxe russe, c'est la Seconde Guerre mondiale où effectivement on a eu bien besoin de l'Église orthodoxe pour mobiliser les forces du pays.
Merci beaucoup Pierre Gonod pour ces deux passionnantes émissions sur les tsars et l'Église. C'était la deuxième partie aujourd'hui, donc l'Église russe au service de l'État ou la période synodale. Je rappelle votre livre, Pierre Gonod, Histoire de la Russie, d'Ivan le Terrible à Nicolas II, 1547-1917, et c'est chez Talendier. C'était donc la fin de cette émission. Notre prochaine émission dans 15 jours. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne-Laure Chanel. Prise de son, Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.